L'indifférence est-elle une vertu chrétienne? Ou le christianisme prêche-t-il le détachement? Évidemment que non. Vous vous en doutez bien. Bien sûr, le christianisme, ce n'est pas l'indifférence par rapport au monde, par rapport aux autres, et le christianisme ne prêche pas, je dirais, un détachement total de toute chose et du monde. Le christianisme, ce n'est pas ce que les philosophes grecs appelaient l'ataraxie. Pourtant, ce serait bien commode si nous pouvions effectivement être détachés de tout. Alors, nous n'aurions pas de souffrance, nous pourrions voir mourir tous ceux que l'on aime sans pleurer, on pourrait perdre son travail sans souci, on pourrait se fiche un petit peu de tout, finalement. Mais justement, le christianisme ne prêche pas cela. Il ne prêche pas le retrait du monde, mais il prêche, plutôt, dirais-je, l'action juste dans le monde. Or, il est certain, et ça apparaît à tout le monde, que pour agir, d'une certaine manière, il faut être préoccupé. Pour agir, il faut aimer. Pour agir, il faut s'engager. C'est-à-dire que la préoccupation, le souci, dirais-je, c'est évidemment pour l'être humain le moteur fondamental de l'engagement et de l'action. Alors peut-être que la spécificité, justement, du christianisme, ce ne serait pas, je dirais, le détachement ou l'indifférence, mais plutôt une manière d'essayer d'apprendre à ses fidèles d'être justement préoccupé, c'est-à-dire d'être préoccupé d'une certaine manière, et pas n'importe comment, et pas de n'importe quoi. Alors donc, effectivement, j'ai répondu un peu rapidement en disant l'Évangile nous invite-t-il à être indifférent ? Je vous ai dit globalement non, mais ensuite peut-être qu'il faut préciser un petit peu, et je dirais que ça dépend de quoi. Donc je vous propose de faire une sorte de, je dirais, de petit catalogue, de passer en revue peut-être différentes choses, différents sujets de préoccupation possibles de notre existence, et de voir comment l'Évangile nous invite à y répondre. La première chose, c'est, mettons, les biens matériels. Alors pour cela, j'aurais tendance à répondre oui, l'Évangile nous invite à être détachés des choses matérielles. Ne vous faites pas des trésors, ne vous amassez pas des trésors sur terre, dit le Christ, là où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. À d'autres endroits, le Christ dit « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur ». Enfin, il y a aussi tous ces passages assez virulents à l'égard de ceux qu'il appelle les riches, qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont beaucoup d'argent, mais ceux qui sont très attachés à leur argent, en disant « Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et Mammon, qui est le Dieu de la richesse, et donc d'une certaine manière, vous devez un petit peu choisir à quoi vous vous préoccupez. » Et donc certainement, pour cela, je dirais, aussi bien par son discours, par son message, que par son exemple, le christianisme prêche l'indifférence à l'égard des biens matériels. Mais encore, les choses sont un petit peu plus compliquées. Parce que d'abord, les choses matérielles, c'est du plaisir. Et je ne vois pas que l'Évangile soit contre le plaisir. Si vous voulez, l'Évangile ne prêche pas en disant « Vous devez forcément être malheureux, être toujours triste, toujours austère, n'avoir aucune joie sur terre. » Au contraire, le Christ, je dirais, faisait des bons repas. Il fréquentait des gens qui avaient les moyens de l'inviter, faisait des réceptions extraordinaires. Et le Christ ne crachait pas là-dessus. Et il avait une robe qui était magnifique, était tellement belle que les soldats romains se sont disputés pour l'avoir. Donc apparemment, le Christ n'avait pas une vie somptueuse, je le reconnais, mais apparemment, il crachait ni sur les bons repas qui coûtent cher, ni sur le bon vin qui coûte cher, ni sur les beaux habits qui coûtent cher. Et donc je dirais, voyez-vous, oui, il faut être détaché des choses matérielles, mais pourtant, ne pas nécessairement les rejeter. Puisque être détaché des choses matérielles ne veut pas forcément dire y être indifférent. On a le droit d'aimer les belles choses et on a le droit, je dirais, d'aimer un certain nombre de choses matérielles. Et d'autre part, la richesse, c'est aussi un moyen d'action dans le monde. Et en ce sens, la richesse n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que la richesse peut être un outil et elle peut permettre de faire un certain nombre de choses. Ça a parfois été évoqué. À quoi cela sert-il que le temple de l'Étoile dépense tant d'argent pour maintenir un temple, une église, à ses propres frais sur l'avenue de la Grande Armée ? On ferait peut-être mieux de vendre tout cela et de le distribuer aux pauvres. Eh bien oui, mais s'il n'y a pas d'église, à qui prêchera-t-on ? Et si l'église n'a pas d'argent, qui prêchera l'évangile dans ce monde ? Et si l'église n'a pas pignon sur rue, où sera annoncé l'évangile ? Alors d'accord, on ne met, je dirais, que des façades de banques et d'agents immobiliers dans l'avenue, et à ce moment-là, la société sera bien tranquille, et il n'y aura plus personne pour les déranger. Et donc justement, le chrétien, en tant qu'il ne se retire pas du monde, est invité à s'engager dans le monde. Et en s'engageant dans le monde, il ne peut pas faire autrement que d'une certaine manière de jouer le jeu du monde. Parce que s'il était comme un martien sur terre, eh bien, sa parole même ne pourrait pas être comprise. Donc voyez-vous, oui, le chrétien doit être d'une certaine manière désintéressé, mais il ne doit pas être indifférent nécessairement par rapport aux choses matérielles. La chose est complexe. Peut-être que ce qui résume le mieux la situation, c'est le psalmiste qui dit un verset qui me semble extraordinaire à propos des richesses, et il dit « Si tu accumules des richesses, n'y mets pas ton cœur. » Et c'est peut-être là, effectivement, on touche, à mon avis, la chose sensible de l'Évangile que nous allons retrouver un petit peu tout le long de cette réflexion, qui est que, effectivement, on doit s'y intéresser, s'en préoccuper, mais ne pas en faire certainement ni son but, ni son objectif, ni le fond même de ce qui oriente notre existence. Maintenant, le chrétien peut-il être détaché et indifférent par rapport aux autres ? Alors là, sûrement pas, non, évidemment. Peut-être que le chrétien peut se détacher des choses matérielles, mais par rapport aux autres, évidemment non. Le christianisme invite au contraire à aimer. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur. Et si on aime quelqu'un, par définition, on n'est pas indifférent à cette personne. D'ailleurs, on voit Jésus s'attacher. Alors à ses disciples, il dit, voilà, je vous donne ma vie parce que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est un peu une attitude intellectuelle, finalement. Jésus se préoccupe un peu intellectuellement de ses disciples. Est-ce qu'il les a vraiment aimés ? Alors, il y a le disciple que Jésus a aimé. Et là encore, on dit, vous savez, qu'il se reposait sur son sein, enfin, il avait la tête posée sur sa poitrine. Et donc, on imagine que Jésus n'était pas une sorte d'individu désincarné qui aimait les gens de loin, purement intellectuellement. Mais on peut imaginer que Jésus ait pu effectivement avoir une amitié profonde pour certaines personnes. Parce qu'une fois de plus, les sentiments, comme le plaisir, ne sont pas des choses coupables. Et d'autre part, ce verset extraordinaire que nous avons souvent médité lors de la mort de Lazare, ce verset qui est le plus court de toute la Bible, avec seulement deux mots, Jésus pleura. Donc quand Jésus voit mourir son ami Lazare, il pleure. Et bien voilà, ça montre effectivement que là encore, Jésus s'était attaché, je dirais, à quelqu'un, et pour des raisons pas nécessairement théologiques, il s'était attaché humainement, il aimait quelqu'un. Et donc certainement, l'Évangile ne nous invite pas, je dirais, à nous détacher ou à être indifférents des autres, au contraire, il nous invite à nous attacher, ce qui, évidemment, est un risque. C'est un risque de souffrance, c'est un risque de beaucoup de choses. Il est certain que celui qui vit tout seul dans sa tour d'ivoire a beaucoup moins de chances de souffrir que celui qui cherche à s'attacher à un certain nombre de gens, ou qui se préoccupe des autres, ou même que celui qui fonde une famille et qui prend tous les risques que cela comporte, de bonheur possible, mais aussi de difficultés, de deuil ou de souffrance. Mais voilà, l'Évangile, c'est ça. Allez-y, il faut se lancer dans le monde et se préoccuper des autres, parce que sinon, il n'y a pas d'amour possible. Encore que, là aussi, je nuancerai. La réponse semble a priori évidente. Oui, l'Évangile, c'est de se préoccuper des autres. Mais quand on regarde le Christ dans son action, on se rend compte que son attitude était en fait assez complexe. Parce que parfois, il semble en fait se désintéresser complètement du sort de certains de ses contemporains. Bon, c'est le cas dans l'épisode de la femme au parfum, quand les disciples disent « Mais c'est idiot, on aurait mieux fait de vendre ce parfum pour le donner aux pauvres », il a une réponse assez cynique. Il dit « Oh, ben, vous savez, les pauvres, hein, vous les aurez toujours avec vous. Hein, » Donc, sous-entendu, voilà, on fait ce qu'on peut, hein, on va pas non plus... Et puis, quand la cananéenne vient demander à Jésus de guérir sa fille et qu'il dit « Bon, allez, laisse-moi, j'ai autre chose à faire. Je ne suis venu que pour les brebis perdues du pays d'Israël. » Où est la compassion du Christ ? Où est sa préoccupation de l'autre, cette espèce de façon de se sentir ultimement concerné par le sort de l'autre ? Il est prêt à dire que les pauvres, bon, on va pas s'en occuper sans arrêt, et que la fille de la cananéenne, elle peut crever. C'est assez étonnant quand même ça. Très étonnant, très 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 étonnant. Mais justement, peut-être que cela montre, si vous voulez, que le christianisme n'est justement pas une chose simple. Et l'Évangile ne dit pas simplement « préoccupez-vous de tout le monde, engagez-vous à fond dans la relation, dans la miséricorde, dans la compassion ». Mais finalement, oui, le christianisme, c'est à la fois s'engager et en même temps peut-être garder une sorte de, je dirais, de liberté par rapport à l'autre. Parce que c'est vrai, on ne peut pas non plus supporter toute la misère du monde. Et parfois, peut-être, il faut-il avoir un léger recul, je ne sais pas, enfin, c'est une réflexion que je vous propose. Peut-être faut-il parfois un léger recul par rapport à ça, ou alors le sentiment suffisamment de liberté par rapport à ses engagements pour ne pas se sentir coupable, de ne pas être capable d'aimer ou d'aider tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a là, certainement, je crois, quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Si vous voulez, c'est que l'exigence évangélique est énorme. Nous devrions aimer tout le monde, pardonner tout le monde, tout faire, aider tout le monde. Et en fait, en même temps, il y a la grâce qui nous dit, ben écoutez, oui, c'est vrai, l'exigence est grande, mais bon, faites ce que vous pouvez. Et finalement, ben, on ne vous demande pas de tout faire. Et donc, oui, aimez, engagez-vous, mais si vous ne faites pas tout, ça n'est pas très grave. Donc peut-être que ces exemples du Christ sont justement des exemples pour nous libérer, en quelque sorte, nous déculpabiliser et nous montrer que le christianisme, le chrétien doit s'engager vis-à-vis de l'autre, mais en même temps, il fait un peu comme il peut, et qui peut-être doit-il aussi toujours être capable de se préoccuper de l'autre sans se laisser entièrement piéger. Je ne sais pas, c'est une réflexion complexe qui se trouve là. Quant au monde en général, le chrétien, évidemment, n'est pas appelé à s'en désintéresser. Je crois que le christianisme, et ça a été bien répertorié, je dirais, invite ses fidèles à s'engager dans le monde, donc à s'y risquer, à ne pas trop s'en détacher, parce que si on se détache trop du monde, on n'y agit plus. Et donc oui, effectivement, le chrétien doit, je dirais, jouer le jeu du monde et accepter de faire partie du monde, en quelque sorte. Comme le petit prince de Saint-Exupéry, où le renard lui explique que, bah oui, il peut l'apprivoiser, mais que s'il l'apprivoise, il souffrira quand il partira, mais lui dit, mais c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est le sens de la vie. Parce que le christianisme n'est pas le détachement, ce n'est pas l'ataraxie, mais c'est au contraire l'engagement dans le monde et d'accepter de se risquer dans le monde. Le Christ, lui, s'est engagé dans le monde. Il s'est attaché aux siens, nous l'avons vu. Il s'est engagé dans le monde, il a eu du mal à mourir. Et de ce côté-là, il n'est pas comme Socrate, qui au moment de mourir et de boire la ciguë, le fait très sereinement. Il invite ses amis et dit « Écoutez, c'est merveilleux, je vais enfin être libéré de ce corps qui est une source de souffrance. » Et il ne voit pas la mort ni comme une délivrance, ni comme une façon enfin de se retrouver hors de l'engagement du monde. Le Christ, la difficulté, je dirais même, de la mort du Christ, en ce sens, est un message. Et donc Jésus a agi, j'ai l'impression, plus par amour des gens que par amour des idées. Parfois on a dit que, finalement, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Je ne suis pas sûr que Jésus soit mort pour ses idées. Je crois qu'il est mort pour beaucoup plus que cela. et qu'il est mort effectivement pour les gens, pas simplement pour dire une sorte de vérité philosophique. Alors donc, il est certain que nous sommes dans une sorte de tiraillement permanent entre, je dirais, la foi qui nous fait retirer du monde, qui nous invite à regarder ailleurs, la foi qui nous invite à mettre ailleurs notre espérance que dans les choses de ce monde, c'est-à-dire à chercher une autre dimension, et l'engagement dans le monde qui nous invite au contraire à nous attacher au monde, à nous jeter dans le monde et à aimer. La solution, on la trouve peut-être dans l'évangile de Jean et dans Paul, qui ont de nombreux passages montrant cette ambiguïté du chrétien qui est à la fois dans le monde et à la fois pas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu, je dirais. Par exemple, il y a cette très belle prière de Jésus qu'on appelle la prière sacerdotale quand il prie pour ses disciples et qui dit effectivement « Seigneur, je ne te prie pas à propos de ses disciples de les retirer du monde, mais je te prie de les garder du mal. » Et effectivement, il dit à ses disciples « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait parce que le monde aime ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc vous voyez, certainement, le disciple a quelque chose d'hétérogène par rapport au monde qui le retire du monde. Ou alors encore, certains passages très étonnants de Paul qui visent à enseigner une sorte de détachement tout en restant dans le monde. Quand il dit, par exemple, en Corinthiens 7, 29, et il dit « Voici ce que je vous dis, frère, c'est que les temps sont courts, et désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, parce que la figure de ce monde passe. » Et donc c'est bien, je crois, toute la difficulté du chrétien d'arriver à être, je dirais, à la fois dans le monde, sans se laisser piéger par le monde. Il est dans le monde sans être prisonnier du monde, c'est-à-dire il sait d'une certaine manière qu'il a toujours cette liberté par rapport au monde. Et c'est effectivement extrêmement, extrêmement complexe, mais néanmoins c'est, je crois, tout l'attrait de l'Évangile, d'arriver à trouver ce juste ajustement, et cette espèce de lame de rasoir, je dirais, entre le détachement et l'asservissement au monde. Le chrétien est dans le monde sans être du monde, il se préoccupe du monde tout en étant libre par rapport à la préoccupation du monde. On a vite fait de basculer d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on peut regarder la prédication chrétienne. C'est assez étrange de faire une sorte de balayage un peu historique, je dirais, au cours des siècles, de voir quel type de message a délivré le christianisme à ses fidèles par rapport aux préoccupations qui étaient les leurs. Parce que je crois, d'une certaine manière, que chaque époque a un peu son souci, je dirais, sa préoccupation, en plus des préoccupations fondamentales que j'ai citées là. Quand on lit les Actes des Apôtres, on se rend compte que le souci fondamental, c'était celui de la fin du monde. Et qu'à ce moment-là, le message évangélique a consisté effectivement à répondre à cela en disant « Effectivement, oui, le monde va avoir une fin, mais ce sera une fin heureuse puisque le Christ va venir. » Et donc il y avait cette préoccupation de la fin du monde qui aujourd'hui, à mon avis, n'est plus une question. Nos contemporains se fichent complètement de la fin du monde, sauf dans certaines sectes évangéliques. Et par conséquent, tous ces discours apocalyptiques de l'Évangile nous semblent étranges ou inassimilables. Je pense qu'en fait, leur objectif était essentiellement d'entraîner les fidèles à se détacher justement du monde, en les projetant dans un autre monde. Donc c'était une certaine manière, je dirais, de détacher les gens du monde et des préoccupations de ce monde présent, et de le lier en quelque sorte à la question de leur propre salut. La question du salut, ça, ça a été la deuxième grande question historique, je crois, du christianisme. Les gens se demandant s'ils seraient sauvés. Et là encore, il y a eu deux types de réponses. Il y a eu le type de réponse venant de la prédication chrétienne populaire, médiévale, en disant, bon, vous vous préoccupez du salut? Et là, l'Église a été très astucieuse en se disant, tiens, on tient une préoccupation. Comme je vous l'ai dit, toute préoccupation étant un moteur vital, je dirais, d'action et d'engagement, on va utiliser cette préoccupation du salut pour inciter les gens à être pieux et à faire des bonnes œuvres. Donc on leur a dit, ah, vous avez peur d'être sauvés, très bien, très bien. Eh bien, vous n'avez qu'à faire des bonnes œuvres, donner aux pauvres, venir à l'Église et être pieux, bien prier, faire tout ce qu'il faut, et peut-être serez-vous sauvés. Ce qui est intéressant, c'est que la Réforme a proposé un autre chemin, et que justement la Réforme a dit, eh bien non, vous avez la préoccupation de votre salut, nous prétendons qu'il vaut mieux vous dépréoccuper de cette question. C'était, je dirais, le message de la prédestination de Calvin, qui visait à dire, ne vous préoccupez pas de votre salut, puisque c'est fait, c'est réglé, vous êtes sauvé, puisque Dieu a choisi de vous sauver. Si vous vous posez la question, c'est que vous êtes prédestiné au salut, donc la question n'est plus une question. Et la Réforme a voulu, justement, là, jouer le jeu de, je dirais, de l'indifférence par rapport au salut. En disant, cette préoccupation est mauvaise, ça n'est pas une bonne préoccupation. Comme si la Réforme avait eu l'idée, puisée dans l'Évangile bien sûr, que d'une certaine manière, une action ne peut être bonne aussi que si elle a une part de gratuité. Parce que se préoccuper de son salut, c'est une mauvaise préoccupation, dans la mesure où c'est une préoccupation égoïste, si vous voulez, qui recentre sur soi-même au lieu d'ouvrir sur l'autre. Donc je crois d'une certaine façon qu'ils ont eu raison. Se préoccuper de son salut n'est pas une bonne chose. L'Évangile d'ailleurs le dit, quand le Christ prêche en disant « Qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Ou plus tard, je crois que c'est Sainte Thérèse qui a dit une chose que je crois assez belle, lorsqu'elle disait « Même si je devais renoncer à mon salut pour aider les pauvres, les plus pauvres, je le ferais. » C'est-à-dire, elle était prête à considérer que son salut était une chose secondaire à côté de sa volonté de s'engager pour les autres. Et donc, c'était quelque chose, je crois, de très positif. Cela est intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus une préoccupation pour nos fidèles. Donc, je dirais, de ce côté-là, la Réforme a gagné. Les gens se fichent de leur salut aujourd'hui. Alors, historiquement, est apparue une autre question, parce que je crois que chaque époque a ses questions, et j'en arriverai à celle qui est, je crois, celle d'aujourd'hui. Historiquement, il me semble que la question suivante, ça a été celle du sens de la vie et de l'absurde. C'est ce qu'on trouve dans, vous savez, dans les œuvres de Dostoïevski, des frères Karamazov, avec En attendant Godot, Camus et tout ça. Et ça a été un grand problème il y a quelques années, enfin quelques décennies, de savoir si notre vie avait un sens. Alors, comme il y avait une question, la religion s'est engouffrée là-dedans, en disant « Ah, vous voulez du sens? Très bien, très bien, très bien, nous allons vous en donner. Et donc, si vous voulez que votre vie ait un sens, eh bien, engagez-vous pour l'Évangile, ça donnera sens à votre vie. » Et il y a eu, là encore, en parallèle, un autre message, message de grâce, disant « Vous n'avez pas à essayer de donner par vous-même un sens à votre vie, le sens de votre vie vous est offert par grâce. » Et le sens de votre vie, c'est que vous êtes aimé par Dieu. Par conséquent, dépréoccupez-vous de cette question. Donc là encore, voyez-vous, je crois que tout au cours de l'histoire, on se rend compte que la prédication chrétienne a visé justement à, je dirais, à dépréoccuper la personne. Et à se rendre compte que, bien sûr, il faut s'engager, mais en même temps, il faut être libre. Et il faut être, je dirais, sans souci par rapport au monde, et que sinon c'est une préoccupation négative. Donc oui, ne vous préoccupez pas du sens de votre vie, ce sens, il est donné. Maintenant, essayez d'agir pour le mieux, tant qu'à faire. Question, est-il bon de se préoccuper du sens de sa vie? Oui, Je pense que oui, d'une certaine manière, c'est bien, mais c'est toujours pareil, tant que ça ne devient pas obsédant. C'est comme toutes les autres questions. Se préoccuper de son salut, c'est pas une mauvaise chose. Le Christ a d'ailleurs eu pas mal de passages en disant « si vous faites ci, vous serez sauvés, sinon vous serez perdus ». Mais toujours avec cette limite de dire « je dois m'en préoccuper sans que ça devienne une question obsédante ». Je dois y penser et le garder en tête sans que cela me rende prisonnier. C'est-à-dire que le chrétien peut s'engager et se préoccuper sans être prisonnier, je dirais, de ses préoccupations. Le problème, c'est que je crois qu'aujourd'hui, ça reste un peu présent, mais les jeunes se fichent un peu de la question du sens de leur vie. Je crois que les gens ne se posent pas trop cette question. Ce que veulent aujourd'hui les gens, c'est d'être heureux, de profiter de la vie, de faire ce que l'on peut. Alors la question moderne, eh bien, après mûre réflexion, je crois que la question moderne, c'est celle de la peur de l'avenir. J'ai l'impression que c'est ça. C'est la peur. Parce que nous avons peur. Nous avons peur du réchauffement climatique. Nous avons peur de la pollution. Nous avons peur, de l'eau qui va monter dans la mer. Nous avons peur du manque d'énergie qui va arriver. Nous avons peur de la surpopulation, de la démographie, du tiers-monde, de tout ça. Et finalement, les médias et tout, l'ambiance actuelle fonctionne dans cette espèce de mainmise sur le peuple par la terreur. On nous terrorise, sur l'avenir. C'est terrible. Lisez, mais que ce soit les démographes, les politologues, les climatologues, je ne sais qui, tous nous terrorisent. Donc on vit dans la peur. Sans compter, pour nous-mêmes, parce que ça c'est pour dans longtemps, mais pour nous, on vit dans la peur permanente. Dans la peur pour les jeunes de ne pas trouver de travail, pour les moins jeunes de perdre leur travail, pour ceux qui sont en bonne santé, d'attraper un cancer, pour ceux qui en ont un, d'en attraper un deuxième, ou qui récidivent, ou qui meurent. Et donc, on est sans arrêt dans la peur de l'avenir. Et ça, c'est très, très fort. C'est très fort. Alors, il y a, là encore, plusieurs réponses possibles. Il y a la réponse que, malheureusement, utilisent beaucoup des jeunes aujourd'hui, c'est l'autruche, c'est-à-dire c'est l'alcool et la drogue. C'est étonnant de voir à quel point, il y a l'alcoolisme qui se développe dans les grandes écoles, comme j'en suis témoin. C'est fou de voir des élèves de grandes écoles mais s'abrutir, jusqu'au coma toutes les nuits, alors qu'a priori, ils étaient plutôt bien partis. Mais il y en a de plus en plus, et ça, c'est très étonnant, de voir, un symptôme de cette peur, de l'avenir, et qu'ils ne savent pas gérer. Alors, il y a l'autre solution. C'est la solution médiévale. La solution médiévale, c'est que, au Moyen-Âge, les gens avaient peur d'être perdus ou de ne pas être sauvés. On leur disait « faites des bonnes œuvres et vous serez sauvés ». Ça, c'est la solution que nous imposent les médias. Vous avez peur du réchauffement climatique, mettez un pot catalytique à votre voiture, achetez une nouvelle voiture, faites du vélo, vous avez peur d'attraper le cancer, eh bien très bien, mangez des légumes et arrêtez de fumer de la cigarette. Vous avez peur d'être au chômage, alors soyez fonctionnaire et puis gagnez moins d'argent et vous ne serez pas au chômage. Enfin, on nous propose finalement des tas de solutions qui, à mon avis, sont pas idiotes, mais qui, à mon avis, n'enlèvent pas l'angoisse. Et donc, je pense que ce sont de mauvaises solutions, en quelque sorte. Bon, c'est pas mauvais, c'est très bien d'arrêter de polluer la planète, de même, c'est très bien de faire des bonnes œuvres et de ne pas fumer, mais je crois que l'être humain a besoin de plus que cela. Et le plus que cela, c'est peut-être justement cela que doit nous dire l'Évangile aujourd'hui. Et que ça va peut-être dans le sens d'un... non pas d'une indifférence, une fois de plus, mais d'une dépréoccupation. Et ça, il y a quelqu'un qui l'a très bien compris, c'est Jean-Paul II. Quand il était venu pour les journées de jeunesse, il avait pris comme slogan « N'ayez pas peur ». Je crois qu'il touchait là quelque chose de très juste et dont les jeunes avaient besoin. C'est bien ce message-là, peut-être, que l'Évangile doit nous dire aujourd'hui. C'est ça, « N'ayez pas peur ». La question, c'est de savoir, il ne suffit pas de le dire pour ne pas avoir peur. Est-ce que derrière, il y a une théologie, un message, un discours qui nous permet de ne pas avoir peur? Eh bien, je pense qu'effectivement, la réponse à tout cela, c'est un peu dans ce passage de Matthieu, au chapitre 6, quand il dit « Ne vous préoccupez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine, etc. » Oui, certainement. Et ça, c'est très étonnant que, dans mon expérience pastorale, je me rends compte que ce passage sur les soucis, là, est de plus en plus choisi par les jeunes mariés. Je leur demande de choisir un texte biblique. Il y a 10 ou 15 ans, ce qu'ils choisissaient à tous les mariages, c'était « Vous êtes le sel de la terre ». C'est ça, votre vie a un sens, vous avez un rôle, une fonction. Aujourd'hui, c'est « Ne vous préoccupez pas du lendemain ». Donc je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Et il est certain que la réponse du Christ, à mon avis, est très juste. Il dit « Mais vous savez, la vie, c'est beaucoup plus que le corps, et l'existence, c'est plus que le vêtement. Et certes, on peut essayer de faire au mieux pour le monde, mais n'ayez pas peur. La vie, le bonheur, la joie seront toujours possibles, quoi qu'il arrive, même s'il fait plus chaud, même s'il y a une crise économique, ou même s'il n'y a plus de pétrole. Tout cela, c'est finalement pas très important. Je ne dis pas que c'est sans importance, je dis que ça n'est pas très important. Il y a quelque chose de plus grand que cela, de plus important, de plus fondamental, qui est l'amour. Ça, c'est l'espérance chrétienne qui, justement, nous permet de ne pas être prisonniers du monde, mais de savoir qu'on participe aussi d'une autre réalité, qui est d'un autre ordre, qui, elle, est de l'ordre de l'éternel. Et c'est là que réside la source réelle de la joie, du bonheur, de l'équilibre, du bien-être et de la vie. Et que la source réelle de la joie, du bien-être, de l'équilibre et de la vie ne réside pas, je dirais, dans le fonctionnement économique ou climatique de ce monde. Paul aussi dit bien cela en Philippiens 4. Vous savez, moi j'ai appris à me contenter dans les états dans lesquels je me trouve. Je peux avoir faim ou ne pas avoir faim, être rassasié ou non. Et simplement, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc vous voyez, à la fois je m'engage et à la fois nous nous engageons. Et en même temps, je suis libre par rapport à tout cela. Et donc la réponse, ce n'est pas de se détacher du monde et de ne rien faire pour sauver la planète, mais c'est de ne pas faire de cela une préoccupation fondamentale et ultime de sa vie. Parce que c'est ça la question, je dirais. La question, c'est non pas tout ou rien au niveau des préoccupations ou au niveau du détachement ou pour ce qui est de l'indifférence. La question évangélique, c'est une hiérarchisation des préoccupations. Et ne laisser aucune des préoccupations, je dirais, matérielles ou mondaines, prendre la première place. Mais toujours subordonner tous ces soucis et toutes ces préoccupations à une seule préoccupation, qui est celle de Dieu. Alors, celle de Dieu, en tant qu'il est l'amour, le pardon, la grâce et la gratuité. Et ça, c'est ce que Tillich appelle, le théologien protestant, la préoccupation ultime. Et c'est ça la seule part qui ne peut pas nous être enlevée. C'est ça la seule préoccupation fondamentale. Donc oui, n'ayez pas peur, car vous êtes déjà sauvés. N'ayez pas peur, car vous êtes déjà pardonnés. N'ayez pas peur, car le sens de votre vie vous est offert. Et n'ayez pas peur, car votre avenir est réglé. Vous serez sur terre dans la présence et la bonté de Dieu, enfin dans le ciel dans la présence et la bonté de Dieu, et sur terre, avec cette présence et cette bonté de Dieu, vous pourrez toujours avoir de la vie possible, de la joie possible, de l'espérance, de la confiance et de l'amour dans votre existence. La solution chrétienne, ce n'est donc pas l'indifférence pour se sauver de l'épreuve, de l'angoisse. La solution chrétienne dans l'épreuve, c'est la patience. Et c'est l'espérance qui, effectivement, nous permet de nous préoccuper de l'avenir, du présent, en ayant les yeux tournés vers l'avenir. Ce n'est donc pas le détachement, mais la relativisation, parce que toute préoccupation est bonne, dans la mesure où elle entraîne un engagement, une action positive, mais dans la mesure où elle sait toujours être subordonnée à une préoccupation supérieure, qui est celle de Dieu, c'est-à-dire de l'amour, de la paix, de la joie, de la vie, du pardon, préoccupation qui est au-dessus de tout et qui relativise toutes les autres sans les détruire. Amen.